toutes les personnes qui prétendent avoir rencontré un ange n'ont que de bonnes choses à dire de ces êtres célestes. Rien d'étonnant à cela, car dans l'inconscient populaire, un ange ne peut faire que du bien, tandis que les souffrances des hommes proviennent forcément des esprits mauvais, aussi appelés démons. La réalité est quelque peu différente, puisque les anges sont aussi les agents du jugement de Dieu, ce qui apparaît autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. « Et je vis un autre ange monté du côté de l'Orient. Il cria d'une voix forte aux quatre anges. Il leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Verset 3. D'une certaine façon, ces quatre anges sont les bourreaux exécuteurs du jugement de Dieu. Mais ici, ils reçoivent l'ordre express d'attendre avant de commencer leur besogne, jusqu'à ce que les fidèles du Seigneur reçoivent sur leur front la marque du sceau de Dieu. Ces hommes sont appelés serviteurs de notre Dieu, sans doute parce que pendant l'ouverture des six premiers sceaux, ils ont œuvré avec zèle, prêchant la bonne nouvelle à tous ceux qui voulaient l'entendre. Plus loin dans le livre, ces serviteurs sont décrits comme étant d'une très grande consécration au Seigneur Jésus. Ce sont d'une part, les plus fidèles, les plus loyaux et les plus dévoués des serviteurs de Dieu durant les jours sombres de la tribulation, et d'autre part, les missionnaires les plus efficaces que le monde ait jamais connus. D'ailleurs, ils joueront un rôle primordial dans la conversion de leurs compatriotes juifs, ainsi que des païens des autres nations. Mais dans l'immédiat, ils vont avoir besoin d'une protection surnaturelle afin de pouvoir continuer leur ministère de proclamation de la parole de Dieu. Dès qu'ils auront été marqués du sceau divin, les jugements reprendront. En réalité, les anges n'ont pas besoin de marquer les croyants pour les reconnaître. Mais s'ils le font, c'est pour notre bénéfice, afin de nous rappeler que Dieu s'occupe des siens en toutes circonstances. Je continue le texte. « J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. » Verset 4. « Ces croyants et évangélistes sont de la race d'Israël, de la postérité physique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ne peuvent donc pas représenter l'Église. » Cette idée saugrenue, encore répandue aujourd'hui, a surgi dans la deuxième moitié du second siècle et semble avoir des racines antisémites. Ces 144 000 juifs sont les premiers israélites à reconnaître en Jésus leur Messie et Sauveur, mais beaucoup d'autres suivront. Quand les Romains ont détruit Jérusalem en l'an 70 de notre ère, les registres des tribus d'Israël ont disparu. Cependant, Dieu sait très bien qui appartient à chaque tribu. L'ange marque donc du sceau de Dieu 12 000 juifs de 12 tribus cités dans l'ordre suivant. Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Dans l'ensemble des Écritures, il existe 29 listes des 12 tribus et il n'y a pas une seule façon de les énumérer. En fait, il existe 19 manières différentes de le faire et aucune ne correspond à la liste donnée ici. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, les auteurs sacrés suivent indifféremment l'ordre des naissances, l'ordre dans lequel Jacob a prononcé les bénédictions patriarcales sur ses enfants et petits-enfants, l'ordre de campement des tribus, l'ordre tribal lors du recensement des hommes en état de porter les armes avant l'invasion du pays de Canaan, l'ordre des tribus quand Moïse a énoncé les bénédictions et les malédictions de la loi, l'ordre des tribus quand Moïse a prononcé ses bénédictions avant de mourir, l'ordre des princes de tribus, l'ordre des héritages échus à chaque tribu, l'ordre des fils, des épouses et concubines de Jacob, ou encore l'ordre des noms des tribus inscrits sur les portes de la Nouvelle Jérusalem. Ruben étant le premier-né de Jacob, en toute logique, il devrait toujours figurer en tête des listes des tribus, mais ce n'est généralement pas le cas parce qu'il a perdu son droit d'aînesse. En effet, un texte dit que pendant que Jacob séjournait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, l'épouse de second rang de son père. Celui-ci l'a pris. Et au moment de la bénédiction patriarcale, Jacob a dit à son fils aîné, « Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. » Cette délicate affaire de mœurs a poursuivi Ruben toute sa vie. L'auteur du livre des Chroniques écrit « Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. » Dans la liste du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, c'est Judas qui est mentionné en premier parce que c'est la tribu royale et c'est de lui qu'est issu le Messie qui vient reprendre possession de la terre pour y régner. Cela dit, Judas n'était pas un enfant de cœur, loin s'en faut. Il s'est d'abord séparé de son clan pour ensuite se trouver imbriqué dans une sombre histoire de mœurs avec sa belle-fille. Dans le livre de la Genèse, on lit que Judas se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant d'Adoulam nommé Ira. Il y fit la connaissance de la fille d'un Cananéen, il l'épousa. Judas n'aurait jamais dû quitter sa famille et se marier avec une Cananéenne, mais il l'a fait et elle lui donna trois fils. Plus loin dans la Genèse, on lit que Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant Er mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Tu connais ton devoir de proche parent du défunt. Épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. » C'est ce qui s'appelle le Lévira, un mot qui en latin signifie « frère du mari ». Ce devoir d'un beau-frère était antérieur à la loi de Moïse. Il prescrivait à un homme d'épouser la veuve de son frère mort sans descendance afin que l'aîné des enfants de cette nouvelle union hérite le nom et les biens du défunt. Cette règle fut consignée dans la loi de Moïse. Je la lis. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Sous le régime de la loi, l'intéressé pouvait se soustraire à cette charge, mais dans ce cas, il subissait un blâme public. Et le devoir d'épouser se transmettait alors à un parent plus éloigné. C'est toute l'histoire de Ruth. Le Lévira avait pour but de maintenir l'intégralité de la famille afin de ne pas laisser s'éteindre la race et le nom d'un homme mort prématurément et privé d'ayant droit. Donc, c'est Onan, le second fils de Judas, qui a la charge d'épouser Tamar, la femme de son frère décédé. Il a obéi à son père, mais c'est aussi arrangé pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Le texte de la Genèse dit que Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit devenu adulte. » Car il se disait, « Il ne faut pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Tamar retourna donc dans la maison de son père et y resta. Bien longtemps après cela, Judas monta avec son ami Ira, la Doulamite, à Timna, pour la tonte de ses moutons. Quelqu'un en informa Tamar. À partir de là, l'histoire devient croustillante. Alors, elle ôta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et, ainsi déguisée, s'assit au carrefour d'Enaïm, sur la route de Timna, car elle voyait bien que Shéla était devenu adulte sans qu'on le lui ait donné pour mari. Judas aperçut cette femme et la prit pour une prostituée, car elle avait le visage voilé. Il s'approcha d'elle au bord du chemin et lui dit « Permets-moi d'aller avec toi, car il n'avait pas reconnu sa belle-fille. » Elle répondit « Que me donneras-tu pour venir avec moi ?»« Je te ferai apporter un chevreau du troupeau, » lui dit-il. « D'accord, » répondit-elle, « à condition que tu me donnes un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies. Quel gage veux-tu que je te donne ? Ton cachet, le cordon qui le tient et le bâton que tu as en main. » Il les lui remit et s'unit à elle, et elle devint enceinte. Elle se leva et partit, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Fin de citation. On n'entend plus jamais parler de Shéla, le troisième fils de Judas, avec la femme cananéenne. Apparemment, il est tombé dans les oubliettes de l'histoire. Et comme ses deux frères sont morts, prématurément, sans donner de petits-enfants à Judas, il est plutôt évident que l'Éternel n'approuvait pas le mariage de Judas. On pourra aussi remarquer que si le comportement moral de Ruben est très répréhensible, celui de Judas vole bien bas lui aussi. Cependant, Ruben a commis une offense grave parce qu'elle était dirigée contre son père, qui de plus était patriarche et donc prêtre de l'Éternel. Les écarts de Judas sont moins graves, ce qui se voit au fait que non seulement l'Éternel n'a puni ni Judas ni Tamar, mais cette dernière a mis au monde des jumeaux qui sont à l'origine de la puissante tribu royale de Judas, de laquelle est issu Jésus. Des 12 fils qui sont nés de Jacob, Joseph fut vendu comme esclave par 10 de ses frères. Mais il devint un homme à la vie exemplaire. Quant aux autres, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était de la racaille, mais leur niveau moral et spirituel volait au ras du sol. Il faut dire, pour leur défense, que leur père n'était pas non plus un modèle de vertu, loin s'en faut, car Jacob était plutôt un vieux filou, maître de flibuste. Cependant, quand il se trouvait dans une situation désespérée, il invoquait l'Éternel quand même. Et à la fin de son périple terrestre, il avait enfin appris à lui faire entièrement confiance. Quant à Isaac, le père de Jacob, il n'a pas été non plus un exemple à suivre, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, car sa femme et lui formaient un couple parfaitement dysfonctionnel. Je ne relève pas les fautes de ces personnages par malveillance, mais parce qu'elles me rassurent. En effet, en dépit de tous leurs travers, l'Éternel a été patient envers tous ces gens, ce qui prouve qu'il est véritablement un Dieu de miséricorde et que sa grâce n'est pas un vain mot. L'Éternel a non seulement passé l'éponge sur les faiblesses et les péchés des ancêtres d'Israël, mais en plus, il les a bénis pour qu'ils donnent naissance à une race qu'il a choisie pour être son peuple précieux. Pendant que j'y suis, je crois qu'il sera également facile de tirer à boulets rouges sur les apôtres, mais je vais me retenir. Paul était un super grand chrétien à tous les niveaux, un vrai, un pur, mais les autres, bof. Ceux et celles qui apparaissent dans les pages des Écritures et dont la vie fut sans faille, se compte sur les doigts des deux mains. Mais comme j'ai dit, pour les pères fondateurs d'Israël, cette constatation est un encouragement pour nous, car si Dieu a pu utiliser des gens dont la vie était, au mieux, médiocre, il peut aussi se servir de moi. Il n'est donc pas nécessaire d'être une armoire à glace, une sorte de super saint, pour être utile au Seigneur parce qu'il est indulgent, prêt à pardonner et à utiliser ce qu'on lui donne, à condition de le révérer, de ne pas chercher à paraître ou à cacher ses fautes. J'aime beaucoup le psaume 103, dans lequel, suite à ses expériences personnelles douloureuses, David écrit « L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. » Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. Je disais donc que Judas remplace Ruben, le premier-né des fils de Jacob, à la tête de la liste des 12 tribus mentionnées dans ce chapitre 7. Bien que Jacob ait donné naissance à 12 fils, dans la réalité, on compte 13 tribus. En effet, Joseph, un homme de grande vertu, comme je l'ai dit, a été récompensé pour sa consécration à l'Éternel en ayant ses deux fils, Éphraïm et Manassé, adoptés par le grand-père Jacob, ce qui fait qu'ils sont devenus têtes de tribu. Cependant, dans les Écritures, toutes les listes des tribus en énumèrent 12 et jamais 13, ce qui fait qu'il en manque toujours une. Mais ce n'est pas toujours la même. Souvent, c'est Lévi qui est omise parce que c'était la tribu sacerdotale et pour exercer son ministère, elle était éparpillée dans les 12 autres tribus. Mais ici, dans le chapitre 7, ce n'est pas Lévi, mais la tribu de Dan qui manque à l'appel et ce n'est pas la seule anomalie de cette liste, car Éphraïm est remplacé par Joseph, son père. Ces deux tribus sont passées sous silence à cause de leur idolâtrie. En effet, c'est Jéroboam, un homme d'Éphraïm, qui fonda le royaume israélite des 10 tribus du Nord, qui se sépara de Juda. Mais Jéroboam a fait pire. Comme les hommes de son peuple allaient régulièrement à Jérusalem pour célébrer les fêtes obligatoires, il s'est dit, tel que les choses se présentent, les sujets de mon royaume pourraient bien retourner sous l'autorité du fils de David. S'ils continuent à se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, ce peuple s'attachera de nouveau à son seigneur Roboam, roi de Juda. Alors, ils me tueront et se soumettront à Roboam. Après avoir pris conseil, le roi fit faire 2 veaux d'or et déclara au peuple « En voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il dressa l'une des statues d'or à Bethel et installa l'autre à Dan. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. Les 2 veaux plaqués or idolâtres furent installés dans la tribu de Dan et dans la ville de Bethel qui appartenait à Benjamin, et qui était frontalière avec Éphraïm. Comme la tribu de Benjamin s'est jointe à celle de Juda, le veau s'est retrouvé du côté d'Éphraïm, sur son territoire. Voilà pourquoi ces 2 tribus, berceau de l'idolâtrie des veaux d'or, sont omises. L'apparition dans le chapitre 7 des 144 000 juifs consacrés à l'Éternel nous montre que dans l'avenir, Dieu reprendra son programme avec le peuple choisi. Si aujourd'hui Israël est mis de côté, ce n'est que provisoirement. L'apôtre Paul écrit que l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Fin de citation. Sous le régime de l'Ancien Testament, Israël aurait dû être la nation qui témoignait de la présence et de la grâce de Dieu, mais elle a lamentablement échoué. Cependant, il n'en sera pas de même pendant la tribulation, puisque c'est du peuple juif que sera issue la plus grande force missionnaire que le monde a jamais connue. Et de cet effort résultera la conversion de toute la nation d'Israël, ce qui, je l'avoue, est difficile à concevoir. Cependant, quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, il lui a fait remarquer que sa parente Élisabeth, qui était trop âgée pour avoir un enfant, était enceinte de 6 mois, car, a-t-il ajouté, rien n'est impossible à Dieu. Et à la question des disciples, mais alors, qui peut donc être sauvé? Jésus a répondu, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.